Bonjour, bonsoir plutôt à tout le monde. C'est vrai que nous sommes dans le livre de Josué. Et en fait, je parlais avec Arnaud tout à l'heure, on était sur ce livre de Josué. Et c'est vrai qu'il y a une part dans Josué, la première partie, il y a la deuxième partie. La première partie, c'est les 12 premiers chapitres. Et la deuxième, eh bien, c'est les chapitres suivants. Et le verset qui sert de transition entre les deux, c'est le chapitre 13, le verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voilà. C'est en fait tout tenait à la personne de Josué. Le peuple se confiait beaucoup à Josué. Et alors, comme Josué est arrivé à un certain moment à être très âgé, suffisamment âgé pour ne plus porter une armure et combattre les ennemis, eh bien, le peuple est resté passif. Il a attendu quelque chose qui n'arrivait pas. Mais le problème, c'est que Dieu avait fait des promesses qui n'étaient pas. Il y avait des promesses à Josué, mais il y avait des promesses qui étaient au peuple. Et le peuple n'a pas saisi les promesses qui lui le concernaient et il a attendu quelque chose. Alors il y a des personnes, et les fois précédentes, nous avons vu plusieurs passages où des personnes ont demandé, nous voulons posséder l'héritage, nous voulons entrer en possession de l'héritage. Alors ils ont revendiqué et Josué leur a accordé ce qu'ils demandaient. Parce que il ne suffisait que de demander. Quand nous avons des promesses, eh bien, nous devons les demander. Dieu a promis, mais il a promis à ceux qui croient. Alors il a promis à tout le monde, mais ceux qui s'emparent des promesses, ce sont ceux qui croient suffisamment pour avoir l'audace de revendiquer les promesses. C'est dans l'Épître aux Hébreux qu'on lit que c'est par la foi qu'ils héritèrent des promesses. Ils héritèrent des promesses par la foi. Parce que le Dieu donne, et il donne largement, il donne même au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Même Paul arrive jusqu'à dire, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, c'est quelque chose, vous savez, la caverne d'Ali Baba est bien trop petite pour contenir un pareil trésor. Tout pleinement en Jésus-Christ. Bien sûr, ce ne sont pas des richesses matérielles, ce sont surtout des richesses spirituelles. Mais ça ne veut pas dire que le matériel, de temps en temps, n'est pas compris. Mais le Seigneur ne nous a pas fait des promesses matérielles. Alors, Paul pouvait dire, si nous avons le manger et le vêtement, eh bien, cela nous suffira. Voilà. On n'est pas à courir après ce qui est matériel. Ce qui est matériel est pour un temps, et ça a une part dans notre vie, mais ça a une part limitée. Et un jour, eh bien, nous aurons les choses éternelles. Autant faire tout de suite notre choix des choses éternelles, vouloir les posséder et les posséder en grand nombre. Et plus nous possédons les choses éternelles, les choses spirituelles, et Dieu nous donne les choses matérielles. Je suis né dans un pays, je suis né au Maroc. Donc c'est un pays où les gens sont bien commerçants. Ils ont la fibre du commerce, hein. Dès qu'ils sont derrière un comptoir et à vendre des choses et à faire des affaires, il n'y a pas de problème. Ce sont des personnes qui sont très très à leur aise. Mais je me rappelle avoir fait le marché avec mon père. Voilà, mon père allait faire le marché. Et alors, on l'appelait d'abord, et puis il arrivait, et puis il demandait, par exemple, 1 kilo d'oranges. Alors, cet homme prenait un sac, il mettait les oranges, et c'était avec une balance romaine à l'époque, hein, si vous ne connaissez pas, mais c'était un truc, aujourd'hui c'est une pièce d'antiquité. Mais c'était sur la balance, et ça faisait 1 kilo. Et il montrait bien que c'était 1 kilo. Une balance romaine, c'est très difficile à trafiquer, hein. Ça ne se trafique pas, c'est impossible. Ça se verrait tellement que. Voilà. Mais il rajoutait une orange. C'est comme ça. Et il y avait le kilo, bien pesé, et puis ensuite il rajoutait. Il enlevait le sac, il rajoutait, et il donnait, et on payait qu'un kilo. Et en fait, le Seigneur Jésus, quand il a parlé à des Moyen-Orientaux qui avaient les mêmes coutumes. Parce que, avec 2 millénaires de distance, c'était les mêmes choses qui se passaient. Se donner en plus. Il y a les promesses de Dieu qui concernent les choses spirituelles et les choses matérielles sont données en plus. Voilà. Il y a le poids exact. Les promesses de Dieu sont complètes quand il s'agit des choses spirituelles. Et Dieu nous donne aussi les choses matérielles parce que nous avons besoin du matériel. Alors il le donne, mais c'est en plus. Ce n'est pas compté, c'est en plus. Voilà. C'est comme cela qu'il faut comprendre. Alors, il y avait là un pays de la promesse. C'est vrai que quand il s'agit de Josué, c'est un pays matériel. Oui, une terre où il y avait des moissons, où il y avait des bestiaux qui pâturaient, il y avait des maisons, il y avait des villes, il y avait des frontières, il y avait des ennemis à chasser du pays, etc. Mais nous ne sommes plus dans cette situation. Nous ne sommes plus à l'époque de Josué à conquérir un pays pour établir des villes, etc. Mais le pays que nous avons devant nous, c'est un pays spirituel. Ce sont des valeurs spirituelles. Ce sont des conquêtes spirituelles. Il y a un monde perdu devant nous. Il y a des millions de personnes qui meurent sans Christ. C'est un héritage. C'est quelque chose qui nous est laissé. Ceux qui nous ont devancés nous ont laissé des âmes perdues. Et nous, nous devons nous occuper des âmes perdues. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'être encouragés, d'être fortifiés, d'être aimés, que l'on prie pour eux, que l'on ait une parole d'encouragement, que l'on ait un verset, que l'on soit des frères et des sœurs. C'est notre héritage. Nous avons l'héritage des prières. Nous avons l'héritage de la gloire de Dieu. Nous avons l'héritage de la louange, de l'adoration, un héritage merveilleux, extraordinaire. Que nous avons reçu et qui est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux et d'au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et comparer avec les biens matériels. Cela dépasse tout ce que l'on peut imaginer. C'est quand le Seigneur Jésus disait, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et quand une âme est sauvée, quand quelqu'un passe de la mort à la vie, non seulement il y a de la joie dans le ciel, mais il y a de la joie dans le cœur, et il y a de la joie dans l'Église, il y a de la joie dans le cœur des frères et sœurs, parce que nous voyons une nouvelle âme sauvée, un nouveau frère ou une nouvelle sœur en Christ qui se joint à nous et qui vient prier et adorer le Seigneur et entendre sa parole et suivre fidèlement. Et nous avons la responsabilité de l'aider, de l'encourager, de la fortifier, de soutenir. Voilà notre héritage. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je peux vous dire que ces paroles font résonner un chant dans nos cœurs et on se dit c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Quel héritage, quel héritage. Nous avons en héritage nos frères et nos sœurs. Et souvent, quand on en parle, certains frères, certaines sœurs, on n'en parle pas comme d'un héritage. Je me rappelle, j'avais un oncle d'Amérique, un grand-oncle d'Amérique. Alors, il était en Californie, je n'ai jamais rencontré, il était à San Diego. Et c'était un frère de ma grand-mère qui avait migré là-bas. Voilà. Et un jour, on a appris son décès. On a reçu une lettre d'un notaire qui nous disait de rejoindre la Californie, San Diego, et que là, il avait des choses à nous dire. Mais mon père a dit, il y a plusieurs sortes d'héritages. Il y a des héritages de dette aussi. Alors il m'a dit, tu sais, s'il avait été riche, on l'aurait su. Voilà. Mais nous avons un grand héritage, un héritage merveilleux. C'est vrai que nous avons parfois un héritage de dette. C'est vrai que ceux qui nous ont précédés ne nous ont pas toujours laissé des cadeaux. Mais nous, eh bien, nous devons relever le nom de Dieu, la gloire de Dieu. Nous devons relever les promesses de Dieu, les rappeler, nous souvenir qu'il y a des promesses, qu'il y a quelque chose. Et c'est un peu comme l'histoire d'Israël, où il y avait dans les juges, hein, le peuple s'était laissé aller. Et voilà, il y avait un juge qui se levait, il y avait, et puis brusquement, le peuple tout entier se mettait à suivre l'Éternel et à marcher avec lui. C'est vrai que nous avons une conquête à faire. Il y a une grande conquête à faire. Et c'est vrai que parfois, eh bien, on a envie de se fatiguer et de se lasser, de baisser les bras et de dire c'est trop long, c'est trop lourd, c'est trop difficile à porter. C'est la tentation, vous savez. Mais on dit non. Tant que je serai vivant, je continuerai. On fait, c'est notre, nous prononçons cela souvent comme une profession de foi. Et nous disons jusqu'au bout, jusqu'au bout. Parce que Dieu nous demande d'être fidèles. Et ce brave Josué est arrivé à la fin de sa vie. Il y avait encore de la terre à conquérir. Et au chapitre 13, comme je vous l'ai lu, eh bien Dieu lui a dit, tu es âgé, arrête-toi. Et Josué s'est arrêté, la conquête, et il a dit, le pays est encore vaste à conquérir. Mais ceux qui suivaient n'ont pas décidé de conquérir le pays. Pas d'un seul homme, pas toute une nation. Après, il y a eu Caleb et Josué, il y a eu des efforts sporadiques à droite et à gauche, mais pas une concentration et une décision de conquérir. Alors vous retrouvez, ben, les Jébusiens sont restés au milieu de Juda. Ils sont restés là. Ils n'ont pas pu les chasser. Et puis il y a les Éphraïmites qui ont fait un compromis avec les gens de Manassé. Ils ont fait des compromis et puis ils ont soumis à un tribut. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Et puis les autres, eh bien, n'ont même pas eu le courage d'aller prendre possession, d'entrer dans le pays qu'ils avaient reçu en partage. Donc tout ça, eh bien, c'est les promesses de Dieu restent vraies. Mais nous, eh bien, nous les négligeons. C'est Dieu a dit quelque chose. Alors nous regardons, nous aimerions bien qu'il y ait un homme qui se lève devant nous et qui nous dise, maintenant, allez-y, hein, on avance et on fait ceci, on fait ça, quelqu'un qui nous dirige. Mais de temps en temps, Dieu envoie un tel homme, mais pas toujours. Il n'y a pas toujours des revivalistes. Il n'y a pas toujours des réformateurs. C'est la plupart des siècles passés n'ont pas connu de réformateurs. Par contre, il y a eu des chrétiens fidèles. Et ce sont ces chrétiens fidèles qui faisaient la conquête devant leur porte. Eh bien, ces chrétiens-là, Dieu les a bénis. Il a encouragé l'Église et il l'a fortifiée. Parce que ces chrétiens n'ont pas regardé devant eux, le monde comme étant immense et au-delà de leurs forces, c'est vrai qu'il est immense, c'est vrai qu'il est au-delà de nos forces, mais nous avons Dieu avec nous. Le monde peut être encore beaucoup plus puissant qu'il l'est. Dieu restera toujours le tout-puissant. Au-delà de sa puissance, il n'y a pas de puissance. Toute puissance est au-dessous de lui. Et il peut, d'un seul mot, réduire à rien toutes les puissances de ce monde. Il suffit d'une parole, une parole. C'est quelque chose, vous savez, que Dieu a prononcé des paroles. Nous lisons dans ce livre de Josué bien des promesses. C'est chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Et fortifie seulement, toi seulement, et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est les promesses de Dieu. Dieu a parlé, et nous devons en tenir compte. Et nous voyons qu'après Josué, les gens n'ont pas relevé les promesses. Les promesses sont faites à Josué, elles ont été écrites, elles ont été reçues. Josué en a été au bénéfice. Pendant 12 chapitres, ils ont conquis le pays d'une manière miraculeuse. Et puis, ensuite, ils se sont laissés aller parce qu'ils ont considéré que les promesses étaient faites à Josué et n'étaient pas faites à eux. Ils n'ont pas relevé les promesses. Ils ont dit, mais ici, il y a des hommes fidèles autant que Josué. Pourquoi Dieu ne nous fait-il pas les promesses à nous aussi, comme il les a faites à Josué? Donc ils ont regardé que les promesses, c'était des promesses faites à Josué faite à Moïse, mais n'était pas faite pour eux. C'est alors on se dit, mais comment ont-ils pu être aveugles à ce point? Dieu avait prononcé des paroles qu'il fallait conquérir le pays, qu'il fallait avoir l'audace de conquérir le pays, qu'il fallait avancer, et ils ne l'ont pas fait, simplement parce qu'ils n'ont pas pris pour eux les promesses que Dieu avait faites. C'est quand nous lisons la Bible, je l'ai dit souvent et je prends l'occasion encore de le redire, parce qu'il y a des choses qui doivent être dites et redites, parce que je suis certain qu'elles ne sont pas saisies comme il le faut. C'est que la parole de Dieu doit être prise au sérieux. C'est Dieu a parlé et on relève les paroles de Dieu. Dieu a fait des promesses. Dieu vous a-t-il fait des promesses? C'est certain qu'il vous a fait des promesses. Vous lisez la parole de Dieu et il y a les promesses de Dieu pour vous dans la parole de Dieu. Pourquoi certains chrétiens disent Dieu m'a fait une promesse et d'autres, Dieu ne leur fait jamais de promesses. Dieu fait des promesses, Dieu fait entendre sa voix, mais nous ne voulons pas l'entendre, cette voix, parce que les promesses de Dieu, nous les regardons comme pas grand-chose ou comme trop dures à saisir. On se dit, moi je ne suis pas un Josué, hein. Je ne suis pas Samuel, je ne suis pas Pierre, je ne suis pas Paul, je ne suis pas ces gens-là, je ne suis pas un Wesley ou je pourrais citer d'autres noms, hein. Je ne suis pas ces personnes-là, eux, oui, et dans leur temps, à leur époque, c'était plus facile que maintenant. Maintenant, comme c'est difficile, mais est-ce que vous risquez votre vie pour votre foi? Les apôtres, oui. Paul dit qu'il a fait 3 fois naufrage, qu'il a été une fois lapidé, il a passé une fois, un jour et une nuit dans l'abîme. Vous n'en êtes pas là. Paul avait une vie très difficile, et Pierre, et les autres. Nous sommes dans une abondance et une facilité inimaginables. C'est pour l'époque des apôtres, nous sommes des gens riches. Eux étaient des pauvres. C'est si nous étions transportés à cette époque-là, eh bien, on ne pourrait pas nous contenter de ce qu'ils mangent et de ce quoi ils sont vêtus, hein. Ils n'avaient pas 4 vêtements, hein. Nous, eh bien, je ne sais pas combien vous avez de pantalons, combien vous avez. J'étais dans un magasin ce matin pour acheter quelques denrées. Et puis, il y avait une interview d'une personne, je ne veux même pas savoir son nom. Mais elle disait, mais madame, l'endroit où je mets mes chaussures est aussi vaste que ce studio. Mais ces chaussures! Alors, c'est pas ses chapeaux, c'est ceci, c'est cela. Je me dis, mais quelle vanité. C'est une personne que vraiment, j'ai perdu son nom, elle a dit son nom. De toute façon, ça ne m'intéresse pas de savoir son nom. Mais c'est une misère, une misère. Parce qu'ils sont en train de chercher des choses qui sont inutiles. Et c'est, nous nous disons, c'est, voilà, nous sommes, notre période est difficile. Pour eux, c'était beaucoup plus facile que pour nous. Mais pas du tout. Quand vous lisez l'histoire de Wesley, il allait prêcher et prêcher des heures en plein champ. Il y avait de la neige, il y avait de la pluie, et les gens étaient dans la neige et sous la pluie. Et quand il a fini de prêcher 2, 3 heures, ses messages duraient 2, 3 heures. Il se levait, il montait sur son cheval et il passait dans la ville suivante où il était attendu pour une autre prédication de 2, 3 heures. Et il y avait là 200, 300, 400, 500 personnes. Et c'était très difficile. Mais il y avait. Les gens étaient altérés, assoiffés de la parole de Dieu. Ils voulaient connaître Dieu. C'est parce que les chrétiens s'étaient engagés, avancés. Ils priaient, ils intercédaient pour ce monde perdu. Et ils ont obtenu l'exaucement en leur prière, parce qu'ils ont pris les promesses de Dieu à la lettre. Dieu a parlé. Alors, on le fait. on avance. C'est pour cela, c'est ce qui fait la différence entre deux parties de Josué. Une partie où on voit la conquête, c'est Josué, l'homme de foi, et les gens suivent la foi de Josué, et Josué qui a les promesses. Et quand Josué est âgé, eh bien, ils n'ont pas saisi les promesses. Ils ont laissé aller. Alors, c'est sporadique, hein? Certains revendiquent et d'autres non. Alors, vous avez chapitre 22, 21. C'est le premier verset. Les chefs des familles des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent: L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Alors eux sont allés et ils ont demandé. Ils ont demandé et ils ont obtenu. Alors on peut se dire, mais pourquoi Josué ne l'a pas fait lui-même? Il aurait pu dire, voilà, les Lévites, Dieu a promis que les Lévites auraient des villes et des banlieues. On peut se dire, après tout, il était le chef, il aurait pu décider cela. Je ne veux pas pousser la chose trop loin, je ne sais pas pourquoi Josué, peut-être c'était son âge, hein. Il était âgé, il était certainement plus affaibli par l'âge qu'on l'imagine. Mais parce que je ne pense pas que dans la plénitude de sa force, il aurait négligé une chose pareille. Mais parce que Dieu avait dit, hein, et Moïse lui avait ordonné de suivre toute la loi, et ça c'était dans la loi, qu'il devait y avoir des villes de refuge et des villes des Lévites. Mais il ne l'a pas fait. Mais ces personnes sont allées et ont dit, mais où est la promesse? Il y a une promesse qui a été faite et on attend la promesse. Et à partir du moment où ils l'ont demandé, eh bien, ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Alors moi, cela me fait penser à ce que les promesses sont écrites dans la parole de Dieu. Elles sont écrites pour tout le monde. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas lire la parole de Dieu. C'est même un illettré peut apprendre à lire. Pour lire la parole de Dieu. J'avais une grand-mère qui était illettrée. Elle ne savait lire qu'une chose, la Bible, parce qu'elle avait appris à lire dans la Bible. On ne la lisait pas beaucoup, hein, parce qu'elle était catholique et elle voulait rester catholique. Mais elle ne savait pas lire autre chose. C'est même un titre de journal, elle ne savait pas le lire. Mais ma mère lui avait appris à lire dans la Bible pour qu'elle lise la Bible, et voilà, quand elle lisait un peu la Bible. Mais on peut lire la parole de Dieu. Les promesses sont pour nous. Nous pouvons les saisir et nous dire, mais cette promesse, est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde ou elle s'adresse qu'à quelques-uns? Est-ce que cette promesse est pour moi ou est-ce qu'elle était pour le peuple d'Israël seulement? Alors c'est vrai que Dieu ne nous demande pas de conquérir par les armes. Hein. Il n'y a pas de conquête par les armes. Hein. Il y a eu des personnes qui l'ont fait, des chrétiens qui se prétendaient chrétiens et qui faisaient des conquêtes par les armes. Ce n'est pas comme cela que les choses se font. Mais néanmoins, il y a des promesses de conquête, des promesses spirituelles. Et il faut avancer et il faut les saisir. Elles sont pour nous, bien réellement. Nous devons nous dire, cette promesse-là, elle est pour moi. Et de noter, de chaque jour noter les promesses de Dieu. Bon, vous pouvez les souligner dans votre Bible, vous pouvez aussi, parce qu'une fois que vous avez souligné une fois la promesse dans votre Bible, il est difficile de la souligner une deuxième fois. Mais d'inscrire dans un carnet, de se faire un livre de promesses, et de se rappeler, tel jour, Dieu m'a parlé et m'a dit tel verset. Je me rappelle d'un verset que Dieu m'a donné quand j'étais à l'Institut biblique. Première année de l'Institut biblique. Ce verset, il m'arrive de tomber dessus et de dire, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est ma promesse, ça. À ce moment-là, Dieu m'a dit. Et j'ai vu se confirmer à toutes les étapes de ma vie chrétienne et de mon ministère. La promesse, elle a toujours été là, elle m'a toujours accompagné. Et j'ai vu qu'elle m'indiquait une direction. Dans les 2 premiers mois, c'est j'avais 2 mois à l'Institut biblique, j'avais cette promesse. Et elle s'est confirmée, constamment, constamment. Après 45 ans, eh bien, elle est toujours là. C'est la fidélité de Dieu. Notre Dieu, c'est le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Il parle, mais On ne doit pas laisser tomber à terre les paroles de Dieu. On doit les saisir. On doit être méticuleux. Les promesses de Dieu, il faut les vouloir. Il faut les... C'est le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça paraît une parole très difficile à comprendre, mais elle est très simple finalement. Il y a des gens qui sont des violents. Et ils disent, cette parole, elle est pour moi. S'il faut même mourir pour obtenir, je l'obtiendrai. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur des épreuves. Parce qu'avec les promesses, il y a aussi des épreuves. Il y a des moments difficiles. Les plus belles et les plus grandes promesses sont accompagnées d'épreuves. Parce que Satan n'est pas d'accord du tout à ce que nous nous attachions aux promesses de Dieu. Et le peuple d'Israël avait des promesses de Dieu, et Josué avait les promesses. Mais le peuple à conquérir, c'est drôlement défendu. Hein. Et il y a des moments où il y a des morts. Il y a eu des moments difficiles. Mais les promesses de Dieu étaient là. Ils se sont battus pour les promesses. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont des personnes qui se font violence. Parce qu'il y a au fond de nous-mêmes cette petite voix qui nous trompe et qui nous dit « Oh mais, bon, c'est pas pour toi. Tu n'as pas assez de foi. Tu n'es pas un assez bon chrétien. » Oui, bien sûr, ça c'est pour le pasteur. Mais toi, tu n'es qu'un membre de l'Église. Et etc., etc., etc. Et il y a des gens qui disent non. Les promesses sont pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui s'approprient les promesses. Tous ceux qui les saisissent. Qui disent la promesse, elle est pour moi. Il y a des promesses dans la prière. Il y a des promesses pour le salut des âmes. Il y a les promesses pour des victoires. Il y a des promesses pour des bénédictions spéciales. Il y a des promesses de toutes sortes. C'est dans toutes les situations. Et vous seriez parfois étonné, émerveillé, parce que étonné, c'est l'incrédulité. L'émerveillement, c'est la foi. Vous êtes émerveillé de voir que Dieu vous a fait une promesse. Et dans la journée, ce qui se passe dans votre journée eh bien, correspond à la promesse que vous avez eue au début de la journée. Et quand vous lisez certaines paroles au début de la journée, vous êtes fortifié. Vous dites, Dieu a parlé, il a dit, je me confie en lui. S'il a dit, j'avance avec certitude, parce qu'il m'accompagne, parce qu'il est avec moi, il m'a parlé. Je me rappelle de cette dame, il y avait... aux États-Unis, un homme qui faisait... Il y en avait plusieurs, hein, mais c'était à l'époque où l'incrédulité battait son plein et des gens militaient pour sans Dieu. Donc, ils avaient une estrade et puis ils faisaient un grand discours. Et à la fin, ils montraient le poing vers Dieu et disaient « Je défie Dieu de me tuer maintenant. S'il existe, qu'il me tue maintenant. » Alors... Il attendait, il se moquait, j'attends. Il tournait sur son estrade, il disait, j'attends toujours. Pourtant, il a dit, s'il existe, qu'il me tue. Et il tournait sur son estrade. Et à plusieurs reprises, il y a des chrétiens qui se sont approchés. Et il y a même une petite dame un jour qui est arrivée, et elle lui a donné un revolver au monsieur. Elle lui a dit, tenez, si vous existez, tuez-moi. Alors, il ne savait plus quoi faire de ce revolver. Mais elle a dit, j'insiste, si vous existez, tuez-moi. Je pense qu'il n'a pas dû recommencer son petit jeu. Il y avait une autre dame qui s'est approchée un jour, et elle mangeait quelque chose. Et il lui a dit, c'est bon, hein. Elle dit, mais je ne sais pas si c'est bon, c'est vous qui le mangez. Elle dit, non, mais je vous dis, c'est bon, n'est-ce pas, c'est bon. Il dit, mais non, mais madame, si vous le mangez. Elle dit, mais c'est exactement pour les choses chrétiennes. Moi, je les goûte. Je sais que Dieu existe parce que ce matin, je lui ai parlé. Et je goûte combien il est bon. Vous ne le connaissez pas et vous mettez en doute son existence. Nous sommes chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Nous marchons avec Dieu. Si vous marchez fidèlement avec Dieu, eh bien, il y a cette communion avec Dieu, cette proximité de Dieu. Je dirais même cette complicité avec Dieu. On avance avec lui, pas à pas, et jour après jour, instant après instant, et il y a une promesse qui vient aujourd'hui. Et puis vous êtes fortifié et encouragé. Mais demain, vous avez besoin que Dieu vous encourage et vous fortifie encore. Parce que le chemin, c'est un pas à la fois, c'est un jour après l'autre. Et vous avancez avec des promesses, avec des consolations. Et aujourd'hui, vous vous rappelez les promesses que vous avez eues. Vous dites, Seigneur, je compte sur toi. Tu m'as dit, je crois en toi, je me repose sur toi. C'est vrai que c'est difficile. Qui a dit que c'était facile? Si quelqu'un vous a dit que c'était facile, c'est un menteur. Et je le dis devant vous, hein. Je ne pense pas que quelqu'un vous ait dit que c'était facile. La vie chrétienne est très difficile parce que nous avons le diable contre nous. Et nous avons l'armée mauvaise. Et nous avons les méchants de ce monde qui sont contre nous. Faites confiance, ils vont vous essayer de vous duper, de vous tromper. Mais nous avons avec nous plus fort qu'avec eux. Si le diable s'occupe de nous pour nous tenter, pour nous détourner, Dieu est bien plus fort. Et c'est en se basant, en s'appuyant sur les promesses de Dieu, cette confiance en Dieu, on dit mon Dieu restera toujours et éternellement le Tout-Puissant. C'est mon Dieu qui tient les circonstances dans sa main. Aujourd'hui a l'air d'être un jour difficile, mais mon Dieu est aujourd'hui avec moi, comme il a été dans le passé. Et il ne cessera jamais d'être avec moi. Oh, il y a une promesse toute simple qui me réjouit beaucoup. C'est, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et à chaque instant, chaque circonstance, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il n'a pas dit qu'aux apôtres, il a dit à chacun d'entre vous en particulier, il est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans chaque pas que vous faites, dans toutes les circonstances, il a dit qu'il serait avec vous. Il va cesser d'être avec vous. Ce n'est pas la fin du monde. Nous n'y sommes pas à la fin du monde. Si c'était la fin du monde, on le saurait. Alors, il est toujours avec nous. Et vous avancez, il est toujours avec vous. Vous êtes dans le travail, vous êtes dans le métro, vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de vous promener, vous êtes en ceci ou en cela. Il est avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit si pendant 19 prochains siècles, hein, après les derniers siècles, je garantis rien. Il n'a rien dit de tout cela. Il a dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce sont des paroles certaines. Vous marchez appuyé sur ces promesses de Dieu et vous les recevez. Les promesses, elles ne sont pas à Josué, elles sont à nous. C'est vrai qu'elles ont été faites d'abord aux apôtres et nous lisons que ces promesses sont faites dans le Nouveau Testament. Ce sont les apôtres qui les ont eues en premier. Mais les promesses n'étaient pas seulement pour les apôtres, elles sont aussi pour nous. Nous ne devons pas imiter les contemporains de Josué qui ont dit, mais les promesses, elles sont faites à Josué, pas à nous. Alors ils sont venus revendiquer des promesses, ceux qui ont osé, mais ils n'ont pas dit, les promesses sont à nous. La majorité ne l'ont pas dit. Certains sont allés. Et vous verrez, vous avez vu, hein, ce sont des personnes particulières, hein. C'est les Lévites, il y a eu des femmes, il y a eu des gens qui étaient. Mais la majorité, eh ben, attendez. Ils attendaient quoi? Et souvent, je me dis, mais on attend quoi, nous? C'est pourtant nous avons les promesses. Et on attend. Et on attend. Et le problème, c'est que on attend aujourd'hui, mais rien n'empêche qu'on fera la même chose demain, et après-demain, et après-demain. C'est la vie chrétienne, c'est une vie de conquête. C'est une vie où on est actif, on n'est pas passif. On n'est pas simplement des lecteurs ou des gens, des spectateurs. On est des acteurs. On est des personnes qui agissent, qui reçoivent, qui conduisent, qui disent oui, j'adhère, j'y vais. J'avance. La promesse est pour moi aussi. J'entre dans le pays des promesses. Et alors là, il y a une différence. Mais beaucoup de chrétiens attendent. Je me rappelle d'une dame, C'est la pire des choses qu'on lui n'ait pu lui faire. Hein. C'est une de ses amies avait eu une vision. Elle a dit, voilà, tu as des problèmes. Mais cette nuit, dans une vision, Dieu m'a dit, ah, Dieu lui parlait, comme ça, hein. C'est direct, c'est pas passé par la Bible. Donc Dieu lui avait dit qu'elle avait un péché dans sa vie et que le jour où elle saurait quel est ce péché, un péché qu'elle a commis dans le passé, hein, et quand elle se rappellerait ce péché, eh bien tout irait bien dans sa vie. C'est fini, il n'y aurait plus de problème. Et cette personne, avec une naïveté désarmante, se vantait et disait, ah mais je vais très mal. Mais le jour où je connaîtrai le péché que j'ai commis dans ma jeunesse et que je n'ai pas confessé, eh bien tout ira bien. Alors c'est une illusion. Mais si quelque chose ne va pas, comment Dieu va dire à quelqu'un, pas à moi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et il va lui dire, c'est un péché, mais c'est un mystère, hein? Je te dis qu'il y a un péché, mais je ne te dis pas lequel. Et il faudra qu'elle attende. Et le jour où elle s'en rappellera, si elle s'en rappelle un jour, eh bien tout ira bien. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous affranchir, pour nous donner la victoire. Il ne désire pas que nous soyons lanternés toute notre vie. Il y a les promesses de Dieu. On les saisit. Dieu a parlé. Ce qu'il a dit, c'est pour moi. Je le prends pour moi aujourd'hui et je le reçois. Notre Dieu restera le Tout-Puissant pour l'éternité. S'il n'a pas changé, il ne changera jamais. L'ennemi changera. L'ennemi est appelé à être jugé et à disparaître de la scène de l'actualité. Hein. Il sera l'actualité, son actualité sera en enfer, mais plus au milieu des hommes. Mais Dieu restera éternellement le même. Il restera toujours le Tout-Puissant. Et quand Dieu parle, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles aléatoires. Ce sont des paroles qui veulent dire oui ou qui veulent dire non. Ce ne sont pas des paroles qu'il faut chercher une énigme, mais c'est des paroles claires, simples. Et c'est pour cela que Dieu nous demande d'y placer notre foi, parce que c'est simple. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce n'est pas difficile. C'est combien de fois Dieu a dit à Josué, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. C'est que c'est à notre portée. On peut s'effrayer, s'épouvanter. Mais on a les promesses de Dieu. On reçoit ses promesses et on rend grâce à Dieu. Si vous avez loué le Seigneur pour ses promesses, vous avez déjà rendu grâce pour les promesses qu'il y a dans sa parole. C'est que ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Oui et amen en Jésus-Christ. C'est quelque chose de certain. C'est pour cela, je vous dis, vous avez un trésor, vous avez un héritage, quelque chose qui vous est échu en partage, et vous devez le saisir. Je ne peux pas le saisir pour vous. Je peux le saisir pour moi, mais pas le saisir pour vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous l'avez, mais vous devez faire votre cet héritage. Vous devez le saisir et dire, Seigneur, ces promesses, elles sont pour moi aussi. Les chrétiens qui nous ont précédés les ont saisis, ils sont morts. C'était la fin de leur vie, ils ont atteint le bout de leur course. Maintenant, c'est nous qui sommes dans la course. Et c'est à nous à suivre les mêmes traces que eux ont suivies. C'est la trace des promesses et de la parole de Dieu. La parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, il crée. Ces paroles sont vivantes. C'est le Seigneur Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Elles sont vivantes, elles sont puissantes, elles sont spirituelles, elles agissent. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais si vous prenez au sérieux les promesses, eh bien, elles agiront en vous. Alors au début, vous prenez une promesse et vous dites, voilà, c'est la promesse, je la prends par cœur, je la médite, j'approfondis, je m'attache à la promesse. Il y a des épreuves qui viennent. Pour Satan essaye de contredire la promesse de Dieu. Mais cette promesse, vous la gardez fidèlement dans votre cœur. C'est la promesse de Dieu. Et cette promesse, elle fait un travail vivant en vous. Elle vous change, elle vous transforme. Elle fait grandir votre foi. elles vous affermissent, elles vous donnent un solide fondement dans votre vie chrétienne. Vous devenez un chrétien ou une chrétienne solide parce que vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et alors vous avez l'audace d'avancer et de regarder les difficultés dans les yeux et de dire non, j'avancerai par la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, en croyant à ses promesses.